Octave Mirbeau, des artistes. Portrait. L'atelier du peintre Loïs Jambois est certainement le plus curieux des ateliers. On y admire de vieux bahuts, des tapisseries rares, de Carpaccio, trois Botticelli, des études de Rossetti et de Burne-Jones. Tout un arsenal compliqué d'armes anciennes et damasquinées. Un traîneau qui traîna l'impériale Catherine sur les neiges durcies de la Neva. Une chaise à porteurs qui porta la marquise de Polignac sous les ombrages chantournés de Versailles. Des broderies persanes, des aciers arabes, une quantité prodigieuse de madones byzantines et de poteries italiennes. Des étains au ton mat et bleu, à côté de porcelaines éclatantes du Japon, dont les pans se s'enflent et les cols s'effilent, décorés de fleurs bizarres et de bêtes sacrées. Un aquarium où, parmi les gigantées et les algues, nagent des poissons à six bosses, pêchés sur la côte d'Orissa. Puis, ce sont des divans très larges, recouverts de peaux d'ours noirs et de tigres mornés, des fourrures de martre aux reflets d'argent, des coussins dont les broderies se mêlent aux filigranes d'or, de hauts paravents à huit feuilles, d'où tombent des étoffes aux plis maniérés, et qui font dans la pièce vaste de place en place de petits coins de mystère et d'intimité. Au pied de ces paravents sont disposés des canapés, des poufs bas et des tables légères de laque chinoise et de mosaïque assyrienne, dont l'une supporte au milieu d'un fouillis d'objets menus un vase où se meurt un lys, l'autre une burette de vermeil, pleine de vin de Porto, et deux coupes de jade dans lesquelles s'émiettent des gâteaux anglais. Loïs Jambois s'efforce à rester autant qu'il peut en harmonie avec l'intérieur de son atelier. Aux heures du repos, il s'enveloppe volontiers d'un costume japonais, très brodé de dieux et de métamorphoses, ou bien il se déguise en seigneur du temps de Louis XIII. « Quelle jolie tâche je fais !» se dit-il en contemplant dans une glace son image qui s'élève en clair sur un fond de bahut gothique ou en sombre sur la blancheur d'une tenture soyeuse. Il se campe fièrement de trois quarts, le mollet marquant, la main gauche appuyée sur la garde de son épée, la main droite jouant avec les boucles de la perruque blonde. « Quelle souplesse !» se répète-t-il. « Comme je m'harmonise avec la nature morte. Quel accent a le panache de mon feutre sur le rouge de la portière. Quel... » Jambois est interrompu par l'entrée d'un valet de pied, correct, irréprochable, qui, d'un ton solennel et sans que remue le moindre muscle de son visage, dit « Le modèle de monsieur attend monsieur. » Alors Jambois revêt sa tenue de travail. Un jersey de soie bleu sombre, très collant, et qui moule exactement le thorax. Un pantalon de molleton blanc, des escarpins vernis, décolletés sur le coup de pied, une toque anglaise qui s'assouplit à la forme du crâne. Le tissu du jersey est unique et d'une élasticité telle qu'en le tirant de la main, il s'allonge, s'allonge, s'allonge indéfiniment, revient, aussitôt lâché, à son point de départ, avec une vibration d'arc qui se débande, avec un bruit sec de caoutchouc qui claque sur de la peau. « Où diable vous procurez-vous des étoffes pareilles ?» demandent à Jambois ses amis émerveillés. Et lui, d'un geste las, désignant l'Orient, répond « Là-bas, j'ai des femmes qui se nourrissent de dattes et qui sont belles, belles, grosses, grosses comme Judith Gautier. » Lorsqu'il fait le portrait d'une grande dame, Jambois commande des orchestres qui jouent des airs tristes derrière les paravents. Sur les balustres de la galerie circulaire, il dispose des modèles italiens à la peau jaune en des attitudes pompéiennes. D'autres, plus blanches, se cambrent dans des encoignures, le torse nu, les seins pointants, avec des chevelures qui pendent. Et l'on voit, entre deux vases fleuris de fleurs pourprées, sur une table où s'éparpillent les couteaux d'or, une grande coupe en forme de sexe ailé qui contient des confitures canaques. Reliées au plafond par d'invisibles fils, des plumes de paon se balancent dans l'air sous la plainte des viols et l'extase des harmonicores. « Ces sons, ces plumes, » murmure Jean-Bois, « oh, que j'aime !» J'ai parfois rencontré Jean-Bois en visite, et c'est un spectacle admirable. Il arrive, pâle, les yeux mourants dans un cerne bleu. Il s'affaisse sur un divan et bat des mains comme bat de l'aile l'oiseau blessé qui agonise. « Mon Dieu, qu'avez-vous ? » s'écrient les femmes subitement affolées. « Jean-Bois, qu'avez-vous donc ? Oh, qu'avez-vous ? » Et lui, presque pâmé, d'une voix faible, murmure « Je n'ai rien, je meurs. » Les femmes s'empressent, s'effraient. Toutes, elles sont agenouillées autour du divan, près de lui. « Songez donc, » soupire Jean-Bois, « un enfant, si blond, si rose, un enfant. Il posait chez moi, ah, si blond. C'était comme un rêve qui serait comme un soleil, tout jeune, qui serait, ah, si rose. Il posait chez moi. L'enfant conta qu'il était allé la veille à Versailles, au château, et il me demanda ce que c'était que Marie-Antoinette. Je le lui dis. Il me demanda comment elle était morte. Je lui dis qu'elle était morte sous la guillotine. Alors il me demanda ce que c'était que la guillotine. « La guillotine, lui dis-je, c'est dans une planche de bois un trou rond par où on passe la tête. » Et l'enfant, si rose, répondit « Ah oui, c'est comme le trou des... si blond. Non, je ne peux pas, je ne peux pas. » Les femmes implorent avec des profils éperdus. « Ah, Jean-Bois, dites-nous ce que répondit l'enfant. » « Non, je ne peux pas, je ne peux pas. Figurez-vous, un lys très blanc, immaculé, un lys sur lequel un lépreux vient poser ses lèvres immondes. Eh bien, j'ai été ce lys, et l'enfant a été ce lépreux. Je meurs de la blessure de l'enfant. » Et les femmes sanglotent. « C'est affreux, c'est affreux !» Et Jean-Bois recommence de battre des mains. Il suffoque, râle. « Mon Dieu, Jean-Bois, revenez à vous, Jean-Bois. Voulez-vous un verre de Porto ?»« Merci, non. Du jus de viande, je vous prie. Du jus de viande. Très peu, dans une tasse de Saxe. Oh, une tasse de Saxe, blanche et ténue, qui serait comme un nuage, qui serait comme une perle, qui serait... comme une fleur, qui serait comme une lèvre, qui serait comme un lac, qui serait comme une âme. Oh, aspirer du jus de viande, très peu dans une âme. » Un jour, il demanda du lait de martre zibeline. Oh, du lait de martre zibeline, boire du lait de martre zibeline. Son regard s'extasia, perdu, on ne sait dans quel rêve lointain. De temps en temps, Jean-Bois répétait « Du lait de martre zibeline. Ah, oh, que j'aime !» Une des plus grandes préoccupations de Jean-Bois, c'est le parapluie. Il en possède une collection importante à laquelle, tous les jours, il ajoute des spécimens nouveaux. Le choix de ses parapluies est pour Jean-Bois tout un travail. D'abord, il n'aime que les parapluies anglais, achetés en Angleterre. « Il ne fleurit bien que là, » dit-il. « Pourquoi ?» Tous les mois, il part pour Londres afin d'y acheter des parapluies. Il reste des journées entières chez Marshall à les palper, à les examiner de près, de loin, dans leurs détails et dans leur ensemble, à les mettre dans toutes les positions dont est susceptible un parapluie, à en étudier minutieusement le manche, la soie, les baleines, le fourreau. Et chaque fois il revient, charmé, enthousiaste, au point qu'un jour, à peine de retour chez lui, il écrivit à une amie. « Cher, je reviens de Londres. Accourez vite voir mes parapluies. des parapluies si exquis. Vous vous pâmerez, je vous avertis. Ils sont fins comme des cigares et nus comme des filles. Les amis se moquent parfois de ce goût bizarre qu'ils traitent de mauvais chic. « mais non !» s'écrie Jean Bois. « Ce n'est pas une question de rite, c'est une question d'art. »« Oh, quelle tristesse ! Vous ne voulez pas comprendre ? L'art est dans les sensations exquises et subtiles que donne le parapluie. » Voyez ce qu'il dégage de féminité, de rêve, de mystère, de mélancolie, d'amlétisme, de pessimisme et de non-amour. Rossetti, Burne-Jones, Alma Tadema, Gustave Moreau, c'est là qu'ils ont puisé leur génie. Oui, le parapluie, c'est la source unique et c'est aussi l'aboutissement suprême. Le parapluie anglais, bien entendu. Et la nature, qu'en faites-vous, Jean Bois ? Mais non, la nature, ah, quelle barbarie ! Et comme elle manque de suggestions ! Il y a le lys, d'abord. Cela, je pense, n'est contesté par personne. Il y a ensuite le parapluie. Et puis, il n'y a plus rien. Le pré-raphaélisme tout entier, ce n'est pas autre chose que l'interprétation hagiographique du parapluie. Un parapluie qui serait nimbé d'or comme une vierge. Vous n'avez jamais pensé à cette chose délicieuse et liturgique ? Tenez, Jean Bois prend un parapluie long et menu. Il le balance dans l'air, délicatement, du bout des doigts. Voyez comme il se penche, comme il s'incline parmi les fleurs grêles et les lys odorants. Le voyez-vous ? Là-bas, là-bas ! Il se perd. S'évanouit. Ne dirait-on pas la forme mourante d'une âme ? Oh, que j'aime ! Le soir est tombé, l'atelier est tout sombre. Par la grande baie, un reste de jour pâle entre, qui frise les dorures éparses, s'accroche aux angles des balustres, caresse à peine un dieu hindou accroupi dans des flammes. Mille choses indécises se devinent dans l'ombre crépusculaire. Loïs Jean Bois est allongé sur un divan. Il tient sa main droite repliée sous sa tête dolente. Sa main gauche joue avec le manche d'ivoire d'un petit poignard florentin qui figure une tête de mort pleurant sur des tibias entrelacés. Et Jean Bois est plus que jamais en proie à l'amlétisme dévorateur. C'est l'heure vague où il songe à la femme, à l'unique. Et il la revoit, très longue, très mince, surnaturelle, avec sa robe blanche, son regard de statue, sa chevelure d'or qui la couvrait comme d'un manteau d'impératrice, et la branche de lys qu'elle portait à la main, ah, si hiératiquement. C'était, il y avait plus de 10 ans, à Londres, chez un peintre où il déjeunait. Une porte s'ouvrait et une forme apparaissait, traversait la pièce, s'évanouissait. Elle ne parlait pas. Elle chantait comme chantent les harpes. Elle ne marchait pas. Elle glissait, comme sur les lacs magiques glissent les conques traînées par les cygnes. Jean Bois, ébloui, avait demandé quel était ce rêve. « C'est l'unique, » avait répondu le peintre. « C'est la femme. » Hier, je l'ai rencontré. J'ai mis 20 ans à cela. L'unique s'était mariée au peintre et Jean Bois avait cru mourir car il avait compris qu'elle était perdue pour lui à jamais. De temps en temps, il la revoyait glisser, inclinée et toute blanche, dans cette salle à manger de son ami, puis disparaître. Et c'était pour le pauvre Jean Bois une joie abominable et torturante de penser que l'unique ne serait jamais sienne, jamais. « Écoutez, lui avait dit un jour le peintre, j'ai légué après ma mort l'unique à l'un de mes amis artistes. Allez le voir, peut-être fera-t-il pour vous ce que j'ai fait pour lui. » Il y était allé, l'infortuné Jean Bois. Mais l'ami avait déjà légué son précieux legs à un ami qui l'avait légué à un autre, et il était allé ainsi d'ami en ami pendant plusieurs années. La nuit est tout à fait venue, et Jean Bois rêve encore à la femme. Il soupire. Le 30e, être le 30e sur la liste, quelle éternité! Souffrir, souffrir, toujours souffrir. Oh, que j'aime!
Gil Blas, 27 juillet 1886.